Rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Nouveau.
Ce soir.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Énervé, le magazine de la double soirée, parce que oui, ça commence sur le net à 18h en avant-première sur franceinter.fr et donc en podcast. Et puis ça recommence, mais cette fois-ci à l'antenne, de façon beaucoup plus classique, comme tout le monde, 22h minuit. Ce soir, le Vivre Ensemble au programme de Lutte des Classes, le nouveau film de Michel Leclerc avec Baya Kassmi, une comédie sociale qui joue et se joue de pas mal de sujets. Grand remplacement, islam, le voile, crise de l'école publique, laïcité républicaine, discrimination positive. Vous avez le sens des valeurs, Michel Leclerc et Baya Kassmi, bonsoir.
Bonsoir.
Oui, ça fait peur comme ça.
À vos côtés, Edith Dubien. Oui, c'est vrai que ça fait peur. À vos côtés, Edith Dubien, peintre, dessinateur, sculpteur aussi, avec un univers délicatement trouble. Souvenirs d'enfance, animaux posés sur des crânes, garçons mal aimés, des dessins qui coulent, des corps qui mutent, pour une œuvre qui a aussi des allures de journal intime. Surexposition au Magval Le Vitry à Drawing No, au Carreau du Temple, à Paris actuellement. Edith Dubien, bonsoir.
Bonsoir.
Jeudi, c'est aussi le jour des nouveautés nouvelles avec Marion Guilbeault qui nous annonce le meilleur des sorties musicales à venir. Marion.
Des nouveautés nouvelles qui se baladent, Laurent, en Turquie avec Altingen, à La Réunion avec Maya Kamati et au Panama avec Michel Blades.
Et on retrouvera Benoît Lagan, lui qui s'est extradé cette semaine à Lille pour le festival Sérimania. Chaque jour, il signe un podcast original à écouter sur franceinter.fr. Et bien ce soir, il a retenu deux séries familiales, dont la vôtre, Michel Leclerc et Baya Kassmi. Ça tombe plutôt bien. Et dans le NRV, la suite ce soir, ce n'est pas lutte des classes, mais une question de classe avec un gros plan sur la noblesse, Christophe Bourcelier.
Bah écoutez, Laurent, n'ayez pas honte. Vous êtes en réalité Laurent de Goumard. Je trouve que c'est un nom merveilleux et il faut l'assumer. Et donc, c'est vrai qu'on va parler aujourd'hui de la noblesse. On va tous être des nobles. On va tous trouver cette noblesse en nous avec donc des nobles. Enfin, il y a aussi un historien de la noblesse qui s'appelle Éric Mention-Rigaud. Il vient de sortir Enquête sur la noblesse, la permanence aristocratique. Mais il y aura aussi Hermine de Clermont-Tonnerre, Carbon de Cèze et Vincent Païen de la Garanderie, sans oublier nous, bien sûr, parce que nous sommes tous un peu nobles.
Nous serons les gueux de service.
On sera les gueux de service, c'est vrai.
Allez, le NRV, c'est parti.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Lutte des classes pour vous, Michel Leclerc et Baya Kassmi, avec cette nouvelle comédie sociale, mais aussi politique. C'est d'ailleurs l'enjeu de tout votre cinéma, on peut dire, depuis Le Nom des gens. Lutte aussi pour vous, Edith Dubien, avec une œuvre intime qui rejoue votre propre parcours, votre changement d'identité, on va en parler. Michel Leclerc.
Oui.
J'ai fait un peu mon Christophe Bourcier. Michel Leclerc.
Très bien. Très bon début.
Très bon. Quand vous titrez Lutte des classes, on voit bien sûr la référence historique. En 2019, elle recoupe quoi pour vous, cette lutte des classes?
Bon bah là évidemment le titre marche à
double
entrée,
oui,
évidemment,
bien sûr.
Parce que voilà,
ça se passe dans une école.
On s'est aperçu
que
dans les écoles il y avait s'opérait une certaine lutte des classes, c'est-à-dire qu'il y a un phénomène quand même de plus en plus évident et inquiétant de séparation de fait des classes sociales à l'intérieur de l'école. Qui font que dans beaucoup d'écoles en France, les enfants ne se mélangent plus, les enfants de différentes classes sociales ne se mélangent plus, puisque énormément de parents, et là vraiment le film est sur ce sujet,
sur la peur
des parents, et surtout l'idée c'est pas tellement de juger mais plutôt de décrire, beaucoup de parents prennent peur et ne veulent plus mettre leur enfant dans l'école publique du quartier dont ils dépendent.
Pour quelle raison?
Ben ça, c'est compliqué.
C'est dit frontalement quelquefois.
Baya
Kassmi.
Je crois que, en tout cas, effectivement, le film aborde la peur des parents, mais il aborde aussi, il décrit aussi une société où finalement, à travers l'école, chaque famille, chaque couple va projeter pour son enfant le meilleur, avoir envie, alors d'abord qu'il soit en sécurité, bien sûr, d'où parfois des peurs qui peuvent se réveiller quand on voit que peut-être. Dans l'école de notre quartier, il n'y a pas exactement les mêmes classes sociales que nous, ou peut-être des gens d'autres origines. Donc, des peurs comme ça qui sont très, très moches, que les gens ont du mal à assumer, mais qui sont en même temps réelles, c'est-à-dire la peur de l'autre, tout simplement. Et puis aussi le désir, finalement, qui aboutisse après l'école à la meilleure place sociale dans la société. Donc, on va aller chercher la meilleure école. Et à partir de là, avec une pensée clientéliste, on va essayer de chercher la meilleure. Alors la meilleure peut être tricher sur son adresse pour aller dans une autre école ou tout simplement payer
cher. Ce qu'on a
cher.
Fait, je précise, j'ai envie de le dire tout de suite.
C'est ce que vous avez fait, Michel Leclerc.
Oui, à un moment donné, on a changé notre...
Vous étiez où?
On était à Bagnolet.
Donc là où se passe le film.
Dans l'école qu'on a filmé dans le film. Et on y a vécu pendant 10 ans. Pendant des années, nos enfants ont été dans cette école-là. L'école publique de quartier. Et à un moment donné, on a eu peur pour notre fils. Et donc, à un moment donné, et ça a monté, ça a duré quand même pas mal de temps. On avait peur qu'il soit mal.
On avait
peur qu'il y ait de la violence à son égard. Et à un moment donné...
Parce que comme dans le film, il était le seul blanc de sa classe.
Mais comme dans le film, en fait, il y avait une...
Qu'est-ce qu'un blanc
de...
Ensuite, ça, c'est la bonne question.
Question que pose aussi le film. On s'est rendu compte que aujourd'hui, à un moment, Edouard Baird le dit dans le film, blanc aujourd'hui, c'est plus une couleur de peau, c'est une classe sociale.
C'est une classe sociale.
Et
exactement.
C'est vrai que, enfin, moi, j'en ai fait l'expérience dans ma vie quand on est d'origine maghrébine, mais je crois que beaucoup de gens peuvent le dire, même des gens qui sont très noirs de peau, par exemple, où on est sûr que ça se voit. Je crois qu'une fois qu'on sent bourgeoise, qu'on réussit dans sa classe sociale, et puis qu'on a tous les atouts, quelque part, la couleur s'efface. Mmh. Et quelque part, finalement, quand on montre du doigt une origine, on montre aussi souvent du doigt une origine sociale. Et on oublie qu'on a tous une destination, un chemin, qu'on peut pas être réduit à notre naissance, à notre couleur de peau, ni même à notre quartier d'origine.
Donc vous avez changé votre fils de classe.
Oui.
Vous avez triché, vous avez dit que vous habitez dans le 16e arrondissement.
Non, on a dit qu'on habitait dans le 20e arrondissement.
Et on a déménagé.
Et vous avez déménagé
dans le 20e.
Ouais. En accord avec ce mensonge.
Mais on a changé notre enfant d'école avant. Et en fait, cette espèce de panique qu'on a eue, évidemment, on l'a beaucoup analysée parce que sur le moment, on ne sait pas du tout pourquoi on fait les choses. On était dans la panique la plus totale, dans l'angoisse. On se disputait énormément. Et là, on s'est dit, OK.
Mieux parce que ça allait contre les valeurs que vous défendez.
Oui, totalement. C'est ça aussi. C'est que moi, il y a quelqu'un qui m'a dit en ayant vu le film, mais en fait, je ne comprends pas du tout ce film parce que moi, dans la situation des parents du film, au bout de 10 minutes, je leur ai déjà changé d'école. Oui, sauf qu'il y a des gens pour qui l'école républicaine, c'est pas rien. C'est quand même une valeur, c'est quelque chose d'important. Et l'idée de tricher, en plus, ou l'idée de le mettre dans le privé, dans une école catho,
c'est
totalement invraisemblable.
Ouais, ben oui.
Et c'est une souffrance, quoi. Donc, mais on l'a fait. On l'a fait à un moment donné, on a triché sur notre adresse.
C'est pas beau.
Pour le mettre dans le 20e arrondissement.
Et d'ailleurs, je tiens à dire que c'est carrément hors la loi. C'est-à-dire qu'on pourrait être poursuivi par la justice. Il y a une amende de 3000 et quelques euros. Et je crois des peines d'emprisonnement possibles.
Oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour son fils?
Ouais. Mais par contre,
hors la loi.
Mais c'est vrai que, comme souvent, quand on est assez poisseux, on a envie aussi d'écrire là-dessus et on a envie de décrire le
tout
système.
Le cheminement. Honte qu'il y a à faire aussi.
Honte et puis aussi de se questionner. On se disait, mais c'est fou.
Et quelquefois,
que...
la légitimité aussi. Enfin, franchement, on peut comprendre tous les parents, hein, ceux qui ont choisi de mentir. Et puis
alors maintenant, il peut y avoir chez beaucoup de parents, et on s'inclut dedans, une surréaction possible. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression qu'il y a 20 ou 30 ans, quand ton gamin il rentrait de l'école avec un blouson déchiré, on lui disait, t'as qu'à lui foutre de baffe au gamin qui t'a fait ça. Et puis voilà. Et aujourd'hui, on est tellement dans une société du risque zéro qu'à la moindre contrariété, tout le monde panique et tout le monde se dit « Oh là là, tous aux abris, on va le protéger, on va le mettre dans un univers clos dans lequel il n'est pas du tout confronté à l'autre. »
Et le film, d'ailleurs, à un moment... quand on a développé, il s'appelait le syndrome du cockpit, qui était un truc qu'on a, enfin une espèce de théorie qu'on a inventée suite au 11 septembre, quand les avions ont été
sécurisés.
Il y a eu des intrusions de terroristes et que l'avion s'est écrasé dans les tours. Et on s'est dit, il faut absolument que les pilotes puissent s'enfermer à double tour dans les cockpits. Et on s'est dit, c'est comme ça qu'on va être en sécurité. De là, un pilote complètement dépressif, d'ailleurs, j'ai oublié le nom.
Il était tellement bien enfermé qu'il a envoyé son avion.
Et qu'il a tué 200 passagers.
Personne n'a réussi à entrer dans le cockpit. Donc en fait, en voulant se protéger d'un danger, on en crée un autre.
Et c'est d'ailleurs qu'on se disait, quand même, il y a beaucoup plus de personnes dépressives, je pense même de pilotes dépressifs, que de terroristes. Et nous, on voulait décrire ce système où tout d'un coup, finalement, la peur qu'on a, le fait qu'on se retrouve seul avec la peur pour notre enfant, nous amène à une autre peur et il faudrait qu'on arrive à collectiviser tout ça et à faire des choix ensemble, quoi.
Il dit bien, vous comprenez ce débat qui est en train de naître.
Oui, je comprends tout à fait. Je compatis.
Mais vous n'avez pas d'enfant, donc non, tout va bien. Vous n'avez pas à vous se poser ces questions-là. Vous avez fait vos études dans quelle école?
Dans quelle école?
Pas le nom de l'école.
Ah oui, oui, bien sûr. Non, mais je suis allé jusqu'en CAP comptabilité.
D'accord. Voilà. Public?
À peine.
Public.
Public, pardon.
Très bien. Ouais. CAP comptabilité, vous êtes devenu peintre.
Voilà.
Bravo. Oui, quel parcours.
Quel parcours.
On ne vous voyait pas du tout peintre à l'époque, j'imagine.
Non, pas du tout.
À quel moment vous avez développé justement ce travail?
J'ai commencé par la photo dès l'âge de 13 ans. Et puis après, par la suite, j'ai toujours voulu faire ce métier-là. Mais on m'en a toujours empêché. Donc j'ai attendu ma majorité et puis j'y suis venu petit à petit, quoi. Voilà. Ouais.
On va revenir justement sur ce dossier de peinture avec vous dans quelques instants. Tout de suite, on part du côté d'une Grèce, mais revisitée par l'électro.
Je sais pas quelle heure mettre le réveil, ça dépend de toi. Je sais pas pourquoi j'ai pas sommeil au fond de tes draps. Je sais pas quelle heure mettre le réveil, ça dépend de toi. Je sais pas pourquoi j'ai pas sommeil au fond de tes draps. J'ai peur demain ce sera pareil, c'est du cinéma. C'est comme la lune et le soleil qui ferait un combat. J'ai peur demain ce sera pareil, c'est un opéra. Je sais pas à quelle heure c'était la veille, si c'était tes bras. Quelle heure mettre le réveil, ça dépend de toi. J'sais pas pourquoi j'ai pas sommeil au fond de tes bras. J'ai peur demain ce sera pareil, c'est du cinéma. C'est comme la lune et le soleil qui ferait un combat. J'ai peur demain ce sera pareil, c'est un opéra. J'sais pas quelle heure c'était la veille, si c'était tes bras. Je sais pas pourquoi mettre le réveil quand je rêve de toi. Je sais pas quelle heure c'était la veille, si c'était tes bras. Les étoiles et le ciel qui jouerait en bas. J'ai peur demain ce sera pareil, c'est un opéra. Je sais pas quelle heure c'était la veille, si c'était tes bras. Je sais pas quelle heure mettre le réveil, ça dépend de toi. Je sais pas pourquoi j'ai pas sommeil au fond de tes draps. Je sais pas quelle heure mettre le réveil, ça dépend de toi. Je sais pas pourquoi j'ai pas sommeil au fond de tes bras.
Du Rebetiko versus Electro par Johan Papakonstantino, c'est dans le énervé, bien sûr.
Une blessure par balle va arriver.
Quand?
Tout de suite.
Il présente le syndrome du savant.
Il voit les choses et il les analyse.
Le nouveau rendez-vous.
Identité super secrète, personne ne saurait qui ils sont.
Sur France Inter.
Comment ça va bien à Lille, Benoît Lagane, notre infiltré?
Ça va
très,
très bien.
C'est vrai?
Ça va très très bien. Très fatigué, mais très très bien.
La vie loin du bureau, ça ne vous pèse pas trop? Je ne vous manque pas?
Non, pas trop, finalement.
Vous êtes vraiment
J'ai
infernal.
Des compagnons de série qui m'accompagnent tous les jours, donc c'est pour ça. Vous êtes un tel personnage, Laurent, que finalement...
Oui, Dr House n'a rien à m'envier. Alors, il paraît que vous avez flashé sur des comédies familiales. On vous reconnaît bien là, ça veut dire que les enfants vous manquent, votre épouse aussi. Première plus, série, oui. Elle s'appelle Mytho. C'est la nouvelle série de Fabrice Gobert, vous savez, le réalisateur des Revenants. Extrait.
Vous avez des problèmes personnels? Non, mais j'en ai rien à foutre.
vous êtes débordé par vos enfants. Dépêchez-vous. Votre travail, l'esclavage de la femme moderne.
T'as pas acheté les chips?
J'ai menti à Patrick.
Qu'est-ce que c'est?
Une tumeur.
Cette alerte, c'est une chance. Et je suis là, t'inquiète pas.
Je sais pas comment revenir en arrière.
Le mensonge, elle verra. C'est pas à la portée de monsieur et madame tout le monde.
C'est mytho, hein, c'est pas MeToo, Benoît Lagan.
Non, c'est mytho, Laurent. Oui, c'est l'histoire donc de Marina Hans et Mathieu Demis. C'est un couple, ils ont 3 enfants. Et Marina Hans se sent un petit peu délaissée par son mari et ses enfants. Les enfants sont ados, ils pensent à eux-mêmes. Le mari, lui, est photographe, il se croit grand artiste, il pense à lui-même. Il trompe même Marina Hans. Et Marina Hans, un petit peu, travaille dans son boulot, enfin, elle n'a rien à cirer. Et au fond, elle décide d'inventer un gros mensonge pour repasser au centre, finalement, de l'histoire. Et elle finit par raconter qu'elle est atteinte d'un cancer du sein. Et à partir de là, toute la famille, bien évidemment, se retrouve auprès d'elle. Alors c'est très drôle, c'est un humour très noir. C'est réalisé, vous le disiez, par Fabrice Gobert. Et on retrouve dans la série vraiment sa réalisation. Vous savez, comme on voyait dans Les Revenants, très architectural, avec une photographie très belle. On voit ces banlieues de villes occidentales, ces banlieues pavillonnaires.
Il adore ça.
Un petit peu comme dans Desperate Housewives, par exemple, aussi. Et puis, c'est écrit par Anne Berès, la romancière qui avait écrit une série que vous aviez particulièrement aimée, qui c'est Paris, etc., signée par Zabou. Et donc, ensemble, ils ont fait cet objet étonnant qui a pas mal plu au festival, où on a enfin l'impression que la série française s'intéresse aux familles. Il y avait eu Fais pas ci, fais pas ça. Il y a des shortcoms du genre scène de ménage ou voilà, les petites séries comme ça.
Il y avait une famille formidable.
Une famille formidable dans le genre de la série récurrente, 90 minutes, mais en format 52 minutes, avec des personnages complètement vrillés, il n'y en avait pas beaucoup, et il y a donc désormais Mytho sur Arte. Arte qui, là, cette année, au festival, a lancé vraiment beaucoup de choses. Mais il n'y a pas que Mytho.
Il y a aussi nos invités. Il y a aussi nos invités qui étaient à Lille, Michel Leclerc et Bayek Esmi, pour leur série Le Grand Bazar. Extrait.
Bah alors, il s'appelle comment, ce bébé?
Écoute, maman, on ne sait pas encore, là.
On ne sait pas encore, mais... Il est né, là?
Non, maman, on sait pas. Voilà.
Un bébé qui n'a pas de prénom, ça porte malheur.
Alors, t'as une tête à t'appeler comment? Christian, c'est bien, moi je propose Christian, c'est bien, c'est simple.
Non, maman, pas comme ton papa, non.
Ah, oui, j'y pensais même pas.
Ah, Samia, tu te rappelles de ton grand-père? C'est un beau prénom.
Bah, à ce moment-là, il y a Rodolphe aussi.
Kojak, c'est bien Kojak.
Bon, allez, maintenant, ça suffit, c'est bon. On décidera nous-mêmes.
Donc après le nom des gens, c'est le prénom des gens.
C'est ça, c'est le sujet.
La métaphore. Hein.
C'est totalement ça, c'est le sujet du premier épisode du Grand Bazar. Et là vraiment, c'est pas parce que ce sont vos invités, mais c'est vraiment mon gros coup de cœur. Mais c'est vraiment mon gros coup de cœur parce que on voit que 2 épisodes, vous savez, à Sérimania, pour se faire une idée. Mmh. Et heureusement, grâce à M6, parce que la série va passer sur M6, moi j'ai pu en voir 4. Donc avant de rencontrer Bayek Esmi et Michel Leclerc pour mon podcast, j'ai vu le 3e à 2h du matin. Et depuis, j'ai pas pu m'empêcher de voir le 4e. Donc c'est vous dire l'envie que l'on a à suivre cette série. C'est vraiment un petit peu comme Le Nom des Gens, mais même dans le principe, on retrouve la réalisation maîtrisée. Alors c'est signé Bayek Esmi à la réalisation, mais on retrouve le style de la réalisation de Michel Leclerc du Nom des Gens. Et puis c'est un fait pas si fait pas ça, vous voyez, mais plutôt que ce soit à Sèvres, c'est à Bagnolet. Et puis plutôt que ce
encore
soit
à Bagnolet. Ouais, c'est vraiment leur terrain de jeu. Vous allez voir, c'est aussi le cadre du film.
Oui, ils vous en parleront, c'est lié finalement, ils vous en parleront, Laurent. Et ce qui est intéressant, c'est un petit peu comme, pour donner une dernière idée pour les auditeurs, c'est un petit peu comme si Madame Boulet avait couché avec Monsieur Le Pic dans Fais pas ci, fais pas ça, et qu'ils avaient fini par se séparer chacun de leur côté pour faire un remix, quoi. D'ailleurs, c'est le titre de départ de la série qui devait s'appeler Remix. Ah ouais. Et c'est vraiment un grand moment de comédie.
Bah, vous voyez,
merci
avec ce
Benoît.
Faillot de Benoît Lagan pour nos invités.
On est content d'être venu, franchement.
Benoît, donc merci à nos confrères de France Bleu Nord d'avoir eu la patience de vous recevoir et la gentillesse. On vous retrouve dans vos podcasts tous les jours jusqu'à samedi. Ça s'appelle Sérimania sur écoute, à retrouver sur franceinter.fr. Et la semaine prochaine, je vous veux au bureau dès 8h du matin.
Ok, chef.
Merci. Oui, on dit chef. C'est bon. Parfait.
France Inter.
Vous m'avez pas répondu. Il était malade, Milo, ce matin?
Non. En fait, on l'a enlevé de Jean-Jo pour le mettre à Saint-Benoît.
Quoi?
Et combien de fois je t'ai entendu gueuler contre l'école privée, toi?
Tu m'étonnes.
Faut dire ce qu'il y a, le niveau à Jean-Jo, il est faible.
Il est très faible, le niveau à Jean-Jo. Pourquoi tu dis pas vraiment ce que tu penses?
Mais je dis ce que
je veux dire qu'il y a trop de noir et d'arabe, c'est ça ce que c'est?
Arrête, non,
ça veut dire ça. Arrête, c'est ça ce que tu penses.
Laurent Goumard.
Ces engueulades qui sont au centre de ce nouveau film, La lutte des classes, vous les avez donc connues, Michel Leclerc et Bayek Esmi?
Pas mal, oui. Ouais, pas mal. C'est même très obsessionnel. On a eu, je sais pas, des dizaines et des dizaines de discussions avec nos amis sur ce sujet.
Et entre nous aussi.
Et entre nous et ça.
Vous avez perdu des amis justement qui avaient mis leurs enfants dans d'autres écoles, qui avaient trahi les valeurs que vous aviez vous.
Non, c'est pas arrivé. Mais par contre, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que c'était créateur de stress, d'angoisse et puis de jugement et puis de. En tout cas, on s'est senti nous aussi abandonnés. Et je pense que d'autres, quand nous on est partis, se sont sentis abandonnés. Donc il y a cette espèce de truc. Et puis après coup, on a eu ce petit blues de se dire mais pourquoi on n'a pas réussi à parler vraiment avec les gens. Et alors
avec les autres parents d'élèves.
Oui. Et d'origine, donc.
Exactement, avec tout le monde.
Immigré, deuxième génération ou troisième, ouais.
Absolument. N'y arrivait pas. Ben en fait c'était très bizarre parce que comme le sujet s'est porté à un moment sur le fait que notre fils était le seul à ne pas croire en Dieu dans sa classe. Alors ça nous a créé une grosse angoisse sachant que on n'avait pas du tout envie de juger ceux qui croyaient. Mais petit à petit c'était une petite musique dans notre tête, une espèce d'angoisse et s'il était emmerdé, c'était en 2015 quand même pendant les attentats.
C'était au moment de Charlie.
Ouais, bien sûr. Ouais.
Donc tout ça, ça a été très anxiogène. Et c'est vrai que quand on a travaillé le scénario, on est allé à la rencontre, on est reparti dans cette école, on a essayé de parler avec les parents, et du coup, on a beaucoup échangé aussi avec des gens qui n'avaient pas forcément la même sensation, qui nous ont aussi exprimé leurs propres angoisses par rapport à l'école. On s'est rendu compte, comme on s'en doutait, que finalement, qu'on soit issu d'un quartier populaire, qu'on soit bobo ou chômeur ou dans la sécurité, comme le père d'un des gamins, quelle que soit notre histoire et notre classe sociale, on a des attentes avec l'école, on a peur de l'école, on a l'impression qu'on est aussi jugé par l'école et on avait envie d'exprimer ça et du coup c'était un peu une épopée. Voilà, on est reparti, Michel a tourné dans l'école d'où on avait enlevé notre enfant.
Beaucoup de parents qu'on connaissait nous à l'époque apparaissent dans le film.
Ah, apparaissent dans le film aussi, ouais, d'accord.
Donc oui, il y a une espèce de comme ça de boucle et de mise en abîme un peu troublant. Et d'ailleurs, on présente le film demain soir à Bagnolet.
Toute la ville sera.
Oui, je pense.
Pour voir le portrait que vous en faites. Pense. Lutte des classes. Donc ça se passe à Bagnolet. Sophia est avocate d'origine arabe. C'est les Labecti. Paul, son mec, c'est Edouard Baird, un batteur professionnel ex-punk, toujours rebelle. Ils viennent d'emménager dans un pavillon avec leur fils Corentin. Ils ont des valeurs de gauche, laïques, et ils inscrivent, ça va de soi, leur fils dans cette école publique. Au départ, ça va, mais ses copains vont les uns après les autres être évacués dans un collège privé pour plus de sécurité, parce que le niveau est quand même bien meilleur, etc. etc. Alors comment vont se positionner Sophia et Paul face à une école où les élèves parlent de religion, où les mères qui viennent chercher leurs enfants sont voilées, et où Corentin devient le seul blanc de sa classe, mais est-ce cela vraiment le problème, bande annonce.
Pourquoi je peux pas y aller à Saint-Benoît si tous mes copains ils y vont?
Je te dis que le privé tu vas pas aimer, c'est tout propre, c'est tout net, t'as rien qui dépasse.
Ouais, ça a l'air bien.
Mais non, je te dis. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu fous là, Adama?
Alors, les enfants, les dames de la cantine voudraient savoir qui est en situation d'arabie pigmentaire à propension musulmane.
Bon, qui mange du cochon?
Bon, écoute, Corentin, c'est le seul de la classe.
Le seul quoi?
Le seul blanc.
Tu me dis ça à moi, en plus?
Oui, mais la mixité, pour que ce soit de la mixité, pour que ce soit de la mixité. Si ça n'est pas de la mixité, ça n'est pas de la mixité, tu vois?
C'est comme s'il n'y avait plus d'école pour des gens comme nous.
Tu supportes personne, tu fous de la gueule de tout le monde, tu crois en rien.
Si des gens comme vous sont vont de l'école, on est foutus, hein.
Et dans cette école, il y a vous, Baya Kasmi, qui êtes l'institutrice, avec une nouvelle langue. C'est-à-dire que vous ne pouvez prononcer aucun mot. Vous êtes obligé de passer par des périphrases pour dire terroriste. On ne dit pas terroriste, on dit...
On dit personne... non, on dit individu intrusif, pardon.
Oui, individu intrusif, qui n'a pas de bombe, mais qui a, je ne sais pas quoi, un matériel détonnant.
Absolument.
Un objet semble-t-il détonnant.
Ça vient d'où, cette idée d'institutrice qui ne peut pas parler aux enfants de façon naturelle? D'ailleurs, quand les parents arrivent, les parents demandent la traduction parce qu'ils comprennent rien non plus.
Non, mais déjà, oui, toute cette histoire-là de terroriste, déjà, nous, on partait d'un truc, on se disait, mais c'est déjà tellement compliqué d'être une maîtresse aujourd'hui. On demande tellement à l'école, et puis effectivement, il y a des telles inégalités dans les écoles, parce qu'il y a des écoles qui sont dotées de pas mal d'argent,
de pas mal de
dans des beaux quartiers, ouais. Avec des élèves qui vont bien, et puis il y en a d'autres qui cumulent tous les problèmes. Et donc le fait que tout d'un coup il faille faire des exercices attentats, je sais plus comment
intrusion
ça s'appelle.
Attentat.
Ça s'appelle intrusion. Des exercices intrusion attentats. Donc il faut voir que le langage, oui, c'est comme ça.
Même déjà au niveau officiel, le langage est bizarre.
Et, voilà. Et alors en même temps, on demande à des maîtresses qui sont là pour apprendre les maths et le français à nos enfants, on leur demande de mettre nos enfants sous la table, parce que c'est ça qui arrive. Il faut nos enfants,
de
un
se
jour,
sous la table,
viennent, on leur dit attention, un terroriste est là, c'est un exercice, mais quand même, s'il est là, il faut aller sous la table. Et est-ce qu'on croit vraiment que nos enfants vont être protégés du terrorisme, ou est-ce qu'on est en train de faire des générations de malheureux? Donc voilà, il y avait ce jeu par rapport à cette société qui en même temps crée de la peur, et en même temps est incapable de regarder en face la peur, et où on parle toujours finalement avec un langage détourné pour éviter de parler des vrais problèmes. Et c'est vrai que c'est un personnage qui a très très peur de fâcher, qui a envie de bien faire, et voilà, elle est condamnée à un langage très étrange.
Alors dans le film, les valeurs de chacun sont mises à mal. Sophia est donc avocate d'origine maghrébine, et elle va surprendre une conversation entre son patron et une autre avocate qui, elle, va être virée. Et à compétence égale, c'est Sophia qui reste pour des questions de diversité. Béa Kasmi, vous en avez parlé avec Leila Bekti. C'est un sujet qui, j'imagine, fait aussi écho pour elle sur ce sujet-là.
Ouais, on a parlé de tous les sujets avec Leila, parce que en fait, elle s'intéresse énormément à ce que raconte le scénario. Donc, on a eu des débats sur tout. Et c'est vrai que là, en l'occurrence, là-dessus, je crois qu'il n'y a que des choses trappes. C'est-à-dire que quand on crée de la discrimination positive, quelque part, on sous-entend, un petit peu comme on fait avec les femmes aujourd'hui d'ailleurs, on sous-entend en fait qu'on a besoin d'un coup de pouce, ou que les personnes qui seraient mises en avant et qui seraient d'origine maghrébine ou noire ou je ne sais quoi, en fait, ils auraient pas les compétences, c'est-à-dire qu'on les aurait aidés. Donc c'est vrai qu'on est vraiment dans des terrains minés, et on avait envie de raconter ça.
Et le personnage de Sophia a vraiment, je dirais, le cul entre trois chaises. C'est-à-dire que d'un côté, elle revient dans la banlieue où elle a grandi, mais en ayant changé de classe sociale.
Tout à fait.
C'est-à-dire qu'elle habitait dans une tour, et maintenant elle habite dans un petit pavillon avec un petit jardin.
Qu'elle voyait quand elle habitait dans la
qu'elle
tour.
Qu'elle voyait, voilà, qu'il avait rêvé. Donc on imagine que c'est quelqu'un qui s'est émancipé, oui, de son milieu d'origine, qui a probablement passé le périph en changeant de classe sociale. Et quand elle revient, son enfant est vu comme le babtou fragile, donc il y a quelque chose quand même de très insupportable pour elle, parce qu'elle a l'impression comme si elle avait trahi son milieu d'origine, d'un côté, et de l'autre côté, dans ce milieu de cabinet d'avocat comme ça, qu'on imagine dans un beau quartier de Paris, aussi, elle est vue comme l'arabe de service. Ouais. Donc en fait, quoi qu'il en soit, elle n'a pas la bonne image. Quoi.
On est toujours pris en otage par rapport à notre image, c'est ça aussi que ça raconte. Oui. C'est-à-dire que le film parle de ça, comment quand on a un voile, tout d'un coup, on n'est plus regardé comme une personne. Quoi. On est à la limite une femme à l'intérieur d'un voile, et puis on va parler que de ça. Donc c'est vrai que les personnages là dans le film, ils sont tous coincés dans leur petite image, et ils essaient de s'en sortir et de dépasser ça. Et
le personnage d'Edouard Baird aussi.
Exactement. Oui. Vous qui avez réussi dans ce métier d'acteur, scénariste, réalisateur, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir trahi quelque chose de votre milieu social, Michel Leclerc? Baya Kasmi.
Il n'y aura
pas de montage.
Moi beaucoup.
Vous, oui.
Moi ça a toujours été une angoisse pour moi, c'est-à-dire que les premiers boulots... je me souviens d'un premier boulot que j'avais eu en tant que scénariste, où on m'a fait comprendre qu'on me faisait venir parce que, en fait, j'avais vécu en cité et que j'étais d'origine maghrébine à moitié. Alors que moi, de l'autre côté, j'ai toujours été plutôt les yeux bleus, blonde, enfin pas vraiment blonde, mais...
Bah, en tout cas, un peu.
Ouais, c'est fausse ça, blonde. Mais c'est une couleur, mais
bravo,
tout de même.
Bravo au coiffeur, bravo John Nollet.
Voilà, bravo John Nollet. Mais du coup, c'est très déstabilisant, parce que on a l'impression tout d'un coup, dès que ça marche pour vous dans quelque chose, que limite on réussit par ce qui a créé des problèmes à d'autres, et que tout d'un coup on va devenir une mise en valeur ou un alibi, et on n'a jamais envie de ça, donc c'est stressant. Ouais, c'est...
Michel Leclerc,
moi je sais pas, qu'est-ce que tu dirais si j'ai trahi mon milieu d'origine? Non, je
c'est quoi votre milieu d'origine?
Moi, je suis fils de prof, par exemple, et plutôt de scientifique.
Là, parce t'as que, carrément trahi.
Ah ouais, là, je peux vous le dire, vous avez trahi.
Oui, donc voilà, ce qu'on peut dire, c'est que voilà, comme vous disiez tout à l'heure, moi, a priori, personne n'était favorable à ce que je fasse du cinéma. Et oui, il y a toujours cette idée que c'est un métier de branleur. Encore aujourd'hui, dans ma famille, il y a quand même cette idée-là que je fous pas grand-chose, en fait, et que c'est pas très sérieux.
Élie Dubien, vous avez eu le sentiment d'avoir trahi votre classe sociale ?
Un petit peu.
En devenant peintre, dessinateur, c'est vrai ?
Non, pas trahi, mais enfin, moi, je me suis donné quand même la possibilité d'aller là où j'avais envie. Donc, ça plaît, c'est, ou pas. Mais...
Vous avez fait une école ?
Pas du tout, je suis autodidacte, ouais. Et voilà, au bout de... Voilà, j'ai travaillé tout seul, j'ai appris dans les livres et voilà.
On va revenir sur ce parcours dans quelques instants. Il y a quelque chose qui m'a quand même étonné dans le film, c'est la fin qui détonne un petit peu avec tous les aspects, toutes les ambiguïtés qu'il pouvait y avoir dans le reste du scénario. C'est une fin un peu feel-good comédie, on va dire, un peu presque appuyée, certains pourraient penser bien pensante. Comment vous avez travaillé cette fin qui, alors que vous auriez pu continuer dans quelque chose d'acide, par exemple, un effondrement de toutes les valeurs, puisque je ne l'ai pas révélé, mais il y a un effondrement qui se passe dans le film, notamment à la fin. Ouais. Michel Leclerc, fallait finir sur une note positive.
Non, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas finir sur... une fin réaliste, c'est-à-dire qu'en fait il y avait deux possibilités, parce que c'est cet enfant qu'ils mettent dans une école plus chic, finalement, enfin sans dévoiler la fin, veut revenir dans son école de Bagnolet,
où il a réussi à s'intégrer,
donc soit si on dit ça, s'il revient dans son école et qu'on dit finalement tout va bien, ça invalide absolument tout le film avant. Toute l'angoisse des parents, ça dit, mais en fait, ils étaient angoissés pour rien.
Pour rien.
Parce qu'en fait, leur gamin est très bien dans cette école et finalement, il n'y a pas de problème, tout va bien. Bon, ce qui nous semblait quand même très, très béni oui-oui un peu.
Exactement.
Un peu gentillet.
Ça, c'est l'autre vraiment fin, le travail des scénaristes, l'autre fin. Oui.
L'autre fin qui est réaliste, je dirais même, puisque finalement, elle ressemble plus à ce qu'on a fait nous, je le dis, enfin voilà, c'est de finalement, on change, ils changent leur enfant d'école, qui est dans une école plus bourgeoise. Et puis voilà, ça se finit comme ça, et ce qui est une fin assez désespérante, parce que ça veut dire, voilà, et on ne voulait pas faire ça. Ça veut dire l'échec de l'école
de
publique aujourd'hui, de la République, et c'est vraiment pas ce qu'on pense.
Et puis quand on fait un film, on va dans l'idéal, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour... nous, on est là pour être juste, et pour questionner des choses, et puis pour que les gens discutent à la fin. On n'a pas du tout envie de vous dire, allez, venez mettre le nez dans la réalité, vous allez voir ce que... les gens, ils y sont toute la journée, et effectivement, c'est ça qu'ils font, comme nous, on a fait, on n'avait pas envie de ça.
Donc, quand même, vous êtes vraiment posé la question de la fin. Ouais.
Ah ben,
ouais,
évidemment, ça a été un gros débat,
terrible.
Et on se doutait que... Et donc, finalement, la forme de la fable, où là, pour le coup, on sort du réalisme,
exactement,
et on est dans une vision utopique des choses, nous semblait être la meilleure solution, pour finir en se disant, bah oui, en fait, si on s'y met tous ensemble, comme dans un film de Capra, on peut reconstruire,
la vie sera belle.
Voilà. Mais par contre, ça finit par des disputes quand même. On reste dans des disputes drôles, des disputes joyeuses.
Sur la responsabilité de la mairie, sur la question du voile.
L'idée n'est pas du tout que tout le monde se réconcilie. L'idée n'est pas du tout que tout le monde se réconcilie ou que tout le monde pense la même chose à la fin du film. Mais l'idée, c'est plutôt que les gens continuent de parler, continuent de se parler même s'ils ne sont pas d'accord, quoi.
La lutte des classes, c'est mercredi prochain au cinéma. Et c'est quand là à Bagnolet ? Quand est-ce que les parents vont voir
C'est demain soir.
C'est demain soir à Bagnolet. J'aimerais vraiment être une petite souris pour voir comment ça va réagir dans ce cinéma. Mais j'irai demain peut-être. Vous restez avec nous bien sûr, Baya Gasmi et Michel Leclerc. On va parler peinture, on va parler sculpture et dessin dans quelques instants avec Élie Dubien.
Love.
Heart, Your Soul With You, c'est le nouveau titre pour The National, un extrait de leur 8e album, attendu, on a le temps, hein, le 17 mai prochain.
Le nouveau rendez-vous. Laurent Goumard.
C'est moi qui suis Golargol, l'ours chante en fa, en sol, en do dièse, en mi bémol, en gilet et en faux-col. Le roi des oiseaux, vous le savez mes amis, m'a donné un beau sifflet pour faire un cuic.
Je me suis en train vraiment de le chanter. J'adorais ce générique et je sais que vous aussi, dites bien, puisqu'on vous a demandé des sons, vous nous avez proposé ce générique. Qu'est-ce qu'il représente de vous et de votre peinture?
Oui, bah, c'est vraiment Golargol. Dès l'âge de 5 ans, je le chantais à tue-tête à la maison et j'ai toujours adoré ce petit nounours qui voulait chanter comme un oiseau. Et voilà, qui avait aussi des problèmes à l'école parce que tout le monde se moquait de lui parce qu'il chantait mal en fait. Et j'y étais très attaché. Beaucoup plus tard, j'ai compris qu'il y avait eu un lien avec l'identité et ce petit nounours quoi. Le fait de vouloir rencontrer le roi des oiseaux. Il était différent et ça a été très compliqué pour lui.
Alors, on vous a demandé un autre son qui vous correspond. Voici ce que vous avez choisi.
I try to laugh about it, cover it all up with lies. I try to laugh about it, hiding my tears in my eyes. 'Cause boys, don't cry. Boys, don't cry.
Boys, don't cry. Qu'est-ce que cette chanson représente aussi pour vous et dit du bien quand on regarde vos peintures, on va en parler dans quelques instants, ouais. Les garçons pleurent souvent justement.
Ouais, ouais. Voilà, bah, voilà.
Au contraire de ce que peut raconter cette chanson, absolument. Qu'est-ce que cette chanson en particulier?
Déjà, c'est le titre d'un film qui parle d'un garçon trans qui m'a beaucoup marqué, c'est un des premiers films que j'ai vu sur le sujet, donc et qui est quand même une réalité de vie même aujourd'hui, même si les choses vont mieux apparemment, il y a quand même beaucoup de c'est difficile. Et puis les garçons ne pleurent pas aussi. Moi, quand j'étais gosse, j'avais pas le droit de pleurer, et donc c'était difficile. Et quand on a un garçon trans, on pleure, on assume sa féminité aussi, et donc ça remet en cause beaucoup de choses, quoi, et que la société n'est pas forcément prête à entendre.
À quel moment vous avez réussi à changer véritablement d'identité et même officiellement à dire du bien?
Alors officiellement, ça fait 4 ans simplement, et sinon j'ai mis toute ma vie à essayer d'avoir ces papiers et faire ma transition, parce qu'à l'époque...
Non pas de devenir un garçon, mais à être un garçon, c'est
ça ?
Ah,
à être un garçon depuis l'enfance, je suis comme ça, oui.
Ce nom de Eddie Dubien, comment vous l'avez construit? Parce que c'est très beau et je suis avec Michel Leclerc et Baya Kasmi qui, vous l'avez compris, sont très sensibles au nom des gens et même à leur prénom. Eddie Dubien, vous l'avez construit comment?
Bah, Dubien, c'est mon vrai nom. Ouais. Et Eddie, je m'appelais Dominique et c'était un prénom mixte, donc c'était très bien. Mais j'avais envie de changer comme une nouvelle vie. C'était important pour moi. Donc j'ai choisi Eddie parce que c'est un symbole rock'n'roll que j'adore, les années 50 que j'adore. Et puis Eddie, on trouve les trois lettres dans Dominique, donc c'était très bien.
Non. C'est vrai que ça fait un peu blague, monsieur et madame Dubien, ont un fils, comment il l'appelle? Eddie Dubien, ça fait vraiment presque une blague. Alors quelques pistes pour situer votre travail, vous avez devant vous deux peintures, en noir et blanc, parce qu'on a fait des photocopies, mais peut-être qu'on va pouvoir nous en apporter d'autres pour qu'on voit un petit peu votre travail. Des enfants, des garçons, parfois maquillés, des animaux, des plantes, ce sont des motifs qui parfois s'entremêlent, des corps hybrides, des gueules qui s'ouvrent, d'où sortent des fluides, des cris, avec une technique très fluide en fait.
Ouais, très fluide. Oui,
vous travaillez à l'aquarelle, vous travaillez avec quoi?
Je travaille à l'aquarelle et à l'acrylique. Enfin là, pour cela, ce sont des dessins, sauf cet enfant-là. Toutes les batailles sont pour toi. C'est un petit garçon qui se tient droit devant une maison en flammes, avec une épée et des perles. Mais sinon, oui, tous les dessins sont à l'aquarelle et l'acrylique aussi, je fluidifie de plus en plus.
Pour quelle raison vous fluidifiez? C'est un rapport avec la métamorphose des corps, avec votre propre identité qui a dû changer?
Absolument, oui, c'est le trouble qui me plaît aussi. Et puis, des propositions, on peut se projeter davantage que devant une peinture, assez lourde, voilà.
Juste une question aussi sur ce que vous mettez en place depuis des années. Les premiers dessins que vous avez faits, parce que vous avez dit que vous avez commencé assez tôt, ouais. Vous n'avez pas fait d'école, ouais. Ça représentait quoi? C'était lié à votre enfance, déjà?
Les premiers dessins, alors, j'avais fait une série qui s'appelait, je faisais des grands portraits, des très grands portraits à l'acrylique, et je traçais sur bois, je traçais à la tronçonneuse. J'y allais vraiment, c'était très physique. Ah
ouais, c'était pas l'aquarelle, hein.
Non, là, c'était pas l'aquarelle, ouais. Il y a eu un changement. Et puis, après, par la suite, j'ai fait une série qui s'appelait Serial Identity. Donc, personne connaissait vraiment mon histoire. Et bien avant que je sois en galerie maintenant, chez Alain Gutarque, je faisais toutes ces séries de têtes, de garçons. Au début, c'était très expressionniste. Et puis, petit à petit, j'aurais rajouté des chapeaux, des moustaches, des... Et c'est une série que j'ai fait beaucoup, qui a bien marché, enfin bon, qui a beaucoup plu.
Qui vous a révélé en fait, ouais.
Qui m'a aidé à tenir en fait.
Aider à tenir, c'est-à-dire?
Ouais, c'était comme une chanson populaire cette série-là. Enfin, c'est quelque chose qui, comme un disque en fait. Je pouvais la transformer, la refaire tout le temps, et je pouvais la vendre à tenir parce qu'à cette époque-là, je me cachais, j'avais pas mes papiers. Et donc j'étais aussi j'étais dans la rue parce que n'ayant pas de papier, pas de transition, je pouvais pas arriver chez quelqu'un et les gens se moquaient ou tout de suite. Donc j'étais tout de suite mis de côté. Donc j'avais trouvé la rue. En plus j'ai fait une psychanalyse qui m'a coûté beaucoup d'argent et tant mieux. Et donc il fallait que je paye tout ça. Donc j'allais dans la rue avec mes tableaux.
Comment ça vous n'aviez pas de papier, Élie Dubien?
Bah, c'était de mademoiselle, quoi.
Ouais, vous étiez toujours d'accord. Cette identité féminine.
Voilà. Et puis, j'ai mis beaucoup de temps, si vous voulez, à faire cette transition, parce qu'il a fallu déjà que je me répare, moi, en tant que personne. Parce que j'ai eu des moments assez compliqués dans ma petite enfance. Donc, j'ai attendu tout ce temps pour pouvoir me permettre de...
Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre dessin, dans votre technique, quand vous avez véritablement changé officiellement d'identité?
Ah oui, c'est fou. C'est incroyable, quoi. J'ai changé de vie, j'ai changé de tout, quoi. Et je suis venu au monde.
Et au niveau de la peinture et du dessin, qu'est-ce que ça a changé? Quels sont les motifs qui sont apparus? Qu'est-ce qui a pu disparaître?
Ben, je me suis laissé le droit de vraiment parler de tout ce qui m'importait, de parler de moi tout d'un coup. Tout s'est libéré d'un coup. Il y a 4 ans. Ouais, c'est formidable.
Vous dessinez? Beaucoup?
Alors, c'est des projections, parce que c'est vrai que je fais des petits garçons et que, bon, c'est pas moi ressemblant petit, malgré que par la sensibilité, pour ceux qui me connaissent, me reconnaissent. Et puis mes préoccupations aussi, oui.
Mais Casmi, Michel Leclerc, vous avez devant vous quelques dessins. Qu'est-ce que ça vous inspire?
Mais c'est très beau.
C'est super beau, hein.
Très, très mélange de violence et d'enfance aussi. Enfin, parce que voilà, parler de Colargol, mais là il y a un gros ours.
Ouais. Et l'ours qui sort du sexe aussi, c'est hyper beau. Enfin, ouais, mais c'est très émouvant,
c'est très,
en fait.
Très fort, très très fort.
Quel était le lien que vous aviez avec la nature pour que les animaux soient très présent, hein,
ouais,
dans ce...
Alors, j'ai fait un lien avec la nature parce que quand j'étais gosse, j'allais chez mes grands-parents en Auvergne, chez ma grand-mère que j'ai beaucoup aimée. Et donc, je quittais Paris pour les bois, les volcans. Et il y avait un lien d'amour avec ma grand-mère. Et c'est là que j'ai pu me révéler parce qu'elle m'appelait son petit chéri et ça me plaisait bien. Et il y a eu un lien très très fort parce que je m'y suis réfugié. J'ai toujours été sensible à la nature par l'affection et ce que j'ai pu transférer donc à l'époque où j'allais chez mes grands-parents. Et puis ce lien fort avec l'animal aussi parce que mon chien était maltraité petit. Ça m'a extrêmement, comme j'étais très proche de lui, ça m'a extrêmement traumatisé. Et donc tout mon travail et ma vie est faite que des réparations en fait. Et voilà, donc j'essaye de me réparer, mais toujours dans quelque chose de très positif, quoi. J'essaye aussi de donner des choses très positives aux autres, et l'animal, la nature et l'identité.
Alors moi, c'est beau, pardon. Ma barbe naît comme un printemps.
Voilà.
Alors moi, je suis le travail depuis quelques années, et vous avez aussi changé quelque chose qui est intéressant, c'est-à-dire que vous faisiez des formats qui étaient des formats, on va dire, domestiques, des petits formats, des très petits formats, et depuis quelques temps, vous vous autorisez à faire de grands dessins.
Ouais.
Qu'est-ce que ça révèle de ce parcours, et qu'est-ce que ça change pour vous?
Bah là, vraiment, j'ai envie de m'exprimer en petit, en grand, très grand.
De prendre plus de place encore.
Oui, j'ai l'impression que mon chemin, ma vie, mon travail artistique va prendre de la force. Mais c'est très lié à moi, quoi. Comme mon identité, je suis un nouvel homme.
Vous vivez où d'ailleurs, puisque vous aimez autant la nature, vous vivez à Paris?
Alors je suis entre Paris, mais sinon mon atelier est entre Blois et Vendôme.
Ah ouais, d'accord.
Voilà, ouais, dans le Loir-et-Cher.
Isolé? Dans le Loir-et-Cher, comme une chanson populaire.
Voilà. Et un petit peu, pas trop. Voilà.
Vous êtes exposé actuellement donc à Drawing No dans la galerie d'Alain de Guttard. Vous êtes exposé à partir de samedi prochain donc au Macval à Vitry. Qu'est-ce que vous exposez à Vitry? Qu'est-ce qu'ils ont choisi pour leur exposition alors, Ligne de vie?
Alors ils m'ont laissé Franck Lamy m'a laissé 7 mètres, un mur de 7 mètres pour pouvoir m'exprimer.
Il faut le remplir. Hein.
Voilà, ouais, c'était pas. Donc j'ai choisi trois toiles, dont une nouvelle.
Qui représente quoi?
Qui représente un petit garçon où sur son t-shirt il y a marqué sauvé et il porte une espèce de une masse blanche dans les mains qui représente en fait c'est comme un vœu cette masse blanche c'est quelque chose d'espoir et il y a deux feuilles simplement qui se baladent dans le ciel voilà c'est un tableau un peu sépia voilà bon là c'est un clin d'œil toujours entre la nature l'identité et la petite enfance. Parce que, en fait, en plus avec tout ce qu'on en, s'y se passe, etc. Donc, je fais beaucoup de liens entre tout et tout, comme quoi vraiment tout est à faire aujourd'hui pour qu'on avance ensemble, quoi.
Le vivre ensemble, avancer ensemble. Une dernière question, Eddie Dubien. Ce qui est troublant aussi dans les tableaux, c'est qu'ils ne sont pas remplis. Contrairement à d'autres, notamment, on sait que quand on a été violenté enfant, plus tard, on peut avoir quand on peint, avoir tendance à remplir les tableaux qu'on peut voir dans l'art brut, par exemple. Vous travaillez sur la réserve, sur le blanc, sur le fait de ne pas peindre toute la toile.
Ouais.
Comment vous comprenez ce... Qu'est-ce que ça représente pour vous de laisser comme ça du vide véritablement sur la toile ou sur la page?
Oui, c'est un espace de liberté pour moi, pour l'autre. Un espace où on peut aller voir plus loin, se perdre. Et c'est vraiment des signes de liberté, tout simplement. C'est des espaces libres.
Et le fait que ça coule beaucoup? Ça coule beaucoup?
Oui, ça coule, oui.
Un peu moins maintenant, c'est ça? Ça a beaucoup coulé, c'est ça?
Oui, ça a beaucoup coulé. Bon, c'est un peu les... Oui, ce serait les... C'est des larmes. Ça peut être des larmes.
Boys Don't Cry.
Boys Don't Cry.
Eh ben non, voilà. C'est tout le contraire. Drawing No, c'est au Carreau du Temple à Paris jusqu'à dimanche. Samedi, l'exposition Ligne de vie au Macval de Vitry-sur-Seine. Et puis j'ai vu qu'il y avait d'autres expositions encore un peu plus loin.
Ouais,
biennale au mois de mai. C'est de la biennale Out of Box.
À Genève. Voilà.
Merci Edith Dubien. Merci Baya Kasmi.
Merci
Michel Leclerc. Excellent. Tout de suite, vous restez avec nous pour la dernière partie de la première partie du Énervé. Ce sont les nouveautés nouvelles de Marion Guilbeault.
Bonjour à n'importe où, n'importe quand, pour n'importe qui.
Rendez-vous. Vous êtes des policiers?
Non, madame, des musiciens.
Marion.
Laurent, on attaque avec des retrouvailles, avec un groupe turco-hollandais, ou alors je dois dire batavo turc.
Ah bah si vous étiez Baya Kasmi dans le film, vous diriez d'origines étrangères.
Voilà,
À base de Balkans,
voilà. Altingen, ça se traduit par Golden Day. Et c'est Golden Day, cet âge d'or, c'est celui de la pop psychédélique des années 60-70. Alors c'est un âge d'or musical qui était vraiment présent dans le monde pop anglo-saxon, mais également sur les rives du Bosphore avec des artistes comme Selda Bakshan ou Erkin Koray. Alors c'est des inconnus hein, pour vous et pour moi, mais c'est des inconnus que des jeunes musiciens néerlandais ont découvert lors d'un voyage en Anatolie. Alors certains ramènent un tapis ou des boîtes de loukoum, mais ben eux ils ont ramené des disques et rentrés à Amsterdam, ben, ils ont écouté tous ces disques, ils ont complètement craqué sur cette musique. Ils ont recruté grâce à Facebook une chanteuse istanbouliote et un super joueur de zaz électrique. Alors Altingen, il faut imaginer un troc entre les coffee shops néerlandais et les souks de l'Orient. Ils ont trouvé la lampe d'Aladin, ils ont frotté et ils ont inventé un nouveau folklore.
Jet that.
Super Egezi Yon Jadan. C'est le premier extrait du deuxième album Jesse de Altingen qui sera publié le 26 avril chez Différentes. Il faut absolument aller voir sur scène. C'est de la dynamita. Ils vont être à Metz, au Café de la Danse à Paris le 7 mai, à Rouen, Rennes, Fézin, Mérignac, au festival We Love Green à Vincennes le 2 juin également. On va rester dans l'exotisme avec une artiste qui chante depuis une île dans l'océan Indien, c'est l'île de la Réunion. Elle s'appelle Maya Kamati. Elle a grandi dans un milieu artistique, un père musicien, un musicien incontournable de l'île, une mère conteuse très réputée. Mais pour autant, Maya Kamati, elle ne se destinait pas à devenir chanteuse, mais médiatrice culturelle. Et en même temps, il y a un point de convergence entre les deux, surtout comme quand on est comme Maya Kamati, avec l'ambition d'emmener le maloya, la musique traditionnelle de la Réunion, vers des sonorités plus contemporaines. Alors, il y a toujours les instruments traditionnels, hein, comme le roulé, le kayamb, la takamba. Elle chante toujours en créole, mais elle a apprivoisé les machines, les basses puissantes et pendillé son nouvel album est comme suspendu entre deux mondes, l'Islande de Björk et l'île de ses ancêtres à elle. Maya Kamati, Kaniki, extrait de son nouvel album Pendillé. Ça sort demain chez le label L'Autre Distribution. Elle sera en concert au Hasard Ludique à Paris le 3 avril. Et dites du bien, vous écoutez de la musique quand vous dessinez?
Oui, ça m'arrive, mais sinon j'écoute les oiseaux.
Ouais. Vraiment collargole. Il n'y avait pas une idée de faire une comédie musicale, Michel Leclerc et Baya Kasmi? Vous en êtes où avec ce projet?
On aimerait tellement.
Oui, on aimerait. On fait des chansons. On fait un concert dimanche 7 avril sur une péniche qui s'appelle le Marcounet à 18h.
Et vous chantez vos propres chansons?
Ils ont signé déjà des chansons pour leur
mais
film.
Mais envoyez-les-nous.
Je crois que Laurent en a passé une fois.
Ici même dans le rendez-vous.
Vous me cachez tout, vous me dites rien.
Alors moi, je vais peut-être, je dis bien peut-être, faire un film qui se passe dans le milieu de la chanson. Voilà.
Mais Kasmi, vous serez la reine du karaoké dans le film?
Il y aura un rôle pour vous. Je sais pas. J'aimerais bien qu'il me repropose de jouer, mais... C'est des parlementations, hein, c'est pas
ça. Ça se travaille au corps aussi. Ouais.
On va clore ces nouveautés nouvelles avec une autodidacte, une touche à tout, une musicienne cosmopolite. Michelle Blade, c'est son nom, elle est née au Panama avant de fuir avec sa famille au Mexique et puis en Floride, sans parler un mot d'anglais. Adolescent, elle bazarde tout pour l'Arizona et là, elle tombe en amour pour le rock et pour les cultures underground, qu'elles soient anar, queer, trans. Michelle Blade, elle est à l'aise dans la marche, dans le do-it-yourself. Elle fait du journalisme, elle vend des smoothies, elle se met au skate, elle réalise des clips, elle apprend le ukulélé. Et il y a une dizaine d'années, elle atterrit en France. Son Panama se transforme en Paname. Elle tape dans les oreilles du label Midnight Special Records. C'est le label de notre copine Claire Vincent, Laurent. Et elle a collaboré d'ailleurs avec elle sur quelques titres, pardon. Et on a aussi le plaisir de l'entendre jouer de la basse avec Fishback. À 27 ans, Michelle Blades, elle a déjà vécu plusieurs vies. Ça s'entend dans son nouvel album Visitor, un très beau disque où on ne s'ennuie jamais, un disque de balade apaisé, de rock exalté. Elle sera en concert à la Maroquinerie à Paris le 16 avril. Et là, tout de suite, on fait connaissance avec elle. I like the way you lean on the wall, the way that your words almost fall, right out of your mouth, right out of your mouth. And maybe this is nothing, but I am feeling something, and the story is always closed when I need it most. You don't know me like I know you.
Kiss me on the mouth, embrasse-moi sur la bouche. Une invitation de Michel Blades pour son premier album Visitor. Une programmation avec la langue de Marion Guilbeault. Eh oui Marion, avec la langue. Le énervé, première partie, c'est fini. On va se retrouver dans 15 minutes après le journal avec ça.
Si l'histoire nous appelle, nous ne nous déroberons point. Après, nous n'avons pas survécu à Clotilde Courau, Stéphanie Melincourt.
La noblesse, une question de classe. Le rendez-vous est pris, alors à tout de suite.